Donc l'histoire que je vais, sur laquelle on va plancher un peu ce matin, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants, c'est la tour de Babel. Mais on va commencer par prier. Seigneur, merci pour ce temps de louange que nous avons passé ensemble. Merci pour nos voix qui se sont unies pour te louer, toi le grand Dieu, toi qui es celui qui nous a tout donné en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pour la vie que tu as mis dans nos cœurs, pour l'Esprit Saint que tu nous as donné. Et nous voulons ce matin être reconnaissants et ne pas être des auditeurs oublieux, mais écouter ce que tu as à nous dire ce matin à travers ce texte de Genèse 11. Amen. Alors le texte que nous allons lire aujourd'hui est une petite saga, une saga poétique du livre de la Genèse, dont les 11 premiers chapitres se situent à une époque, et il faut qu'on le sache, où circulaient au Proche-Orient de nombreux mythes et légendes sur la création. Hein, le plus connu, mais peut-être vous ne connaissez pas, c'est l'Enuma Elish, qui est un texte mésopotamien. Voilà. Dans ce contexte polythéiste, puisque à l'époque, on vivait dans le polythéisme, qui régnait en maître, le monothéisme de Genèse faisait figure de révolution. Le mot Babel possède trois significations. D'abord Babylone, porte des dieux aussi, et embrouillement. Alors, je ne sais pas si le mot embrouillement est très correct, mais en fait, c'est un peu ce que ça veut dire. Sur le plan historique, le chapitre 10 qui précède décrit la postérité de Noé qui se disperse sur toute la terre après le déluge. Bon, petite remarque qui a son importance, en hébreu, le mot terre, Eretz, signifie toute la terre, mais signifie aussi une région ou même une localité. Est-ce que l'histoire de la tour de Babel est un gros plan sur un événement particulier du chapitre 10 où toute la population se disperse sur la terre? Ou alors se situe-t-elle après le chapitre 10 et il y aurait eu un couac, il y aurait quelques Gaulois résistants qui ne voulaient pas obéir à la parole de Dieu? Je ne sais pas, on ne sait pas. Les deux hypothèses sont valables. Sur le plan géographique, le texte dit que l'histoire se situe en Mésopotamie. Alors, on va voir si ça marche. On va lire, commençons par lire Genèse 11, des versets 1 à 9. Et je vous invite vraiment à essayer de visualiser cette scène, puisque c'est un récit, et voire même essayer de vous mettre à la place des gens qui sont dans cette histoire. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, le pays de Shinéar se trouve en Mésopotamie, et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. » Et c'est le verset essentiel de ce passage. Allons, descendons et labrouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Alors ce texte nous enseigne surtout que quoi que les hommes décident et entreprennent, Dieu a toujours le dernier mot. Et c'est quelque chose qu'il faut que nous ayons en permanence en tête. Parfois nos inquiétudes, dans notre vie de chaque jour, on n'a pas toujours cette vision qu'au bout du compte, Dieu a toujours le dernier mot. On va voir ça en trois points. Tout d'abord, l'ordre divin, puis la rébellion, et enfin la sanction. Commençons par l'ordre divin. Au chapitre 1 de la Genèse, sur la création, Dieu donne un ordre à Adam et Ève. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, donc multipliez-vous en fait, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Alors, par domination, il faut le voir, avant la chute, ce n'était pas péjoratif, domination, ça voulait dire un certain contrôle pour le bien-être de tous. La chute a tout brouillé. Puis vint la chute au chapitre 3, et Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Au chapitre 4, Abel est tué par Caïn par jalousie, ça commence bien, ça commence. Le chapitre 5 décrit la lignée d'Adam et Ève jusqu'à Noé. Au chapitre 6 de la Genèse, le mal et la corruption sont tels que Dieu décide de détruire l'humanité, sauf Noé et sa famille, et quelques autres rescapés du règne animal. Les chapitres 7 à 8 décrivent le déluge. Enfin, après le déluge, en Genèse 9.1, nous lisons « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Et le Seigneur répète au verset 7 du chapitre 9 « Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Le chapitre 10 indique que le plan de multiplication et dispersion voulu par Dieu se réalise. Mais paradoxalement, le chapitre 11 montre le contraire. Trois acteurs sont impliqués dans ce récit. Tout d'abord, évidemment, Dieu, désigné dans le texte hébreu par le tétragramme Yahweh, et traduit en français par l'Éternel. L'Éternel, que les 10 premiers chapitres de la Genèse présentent comme le créateur de tout ce qui vit, visible et invisible. Toute sa création, y compris l'humanité, lui est soumise. Ensuite, un deuxième acteur qui n'est ni plus ni moins qu'une population d'hommes et de femmes descendants de Noé qui partagent tous la même langue et qui projettent comme un seul homme de construire une ville et une tour. Enfin, un troisième acteur, le dernier, très discret, que je ne vous dévoilerai qu'à la fin. À vous d'essayer de l'identifier. Alors, pour se faire une idée du projet de cette population, l'archéologie nous apprend que les tours construites dans l'ancienne Mésopotamie étaient en fait de grandes structures religieuses. Le but, ça avait d'abord un but religieux, en forme de pyramides, mais des pyramides à étages, appelées ziggourats. Il s'agissait donc de tours-temples, c'est la tour, mais aussi de temples, qui se situaient en haut, je crois, et aussi tout en bas. Les archéologues ont découvert plusieurs ziggourats, dont celle d'Uruk et d'Ur, ici en photo, vous voyez ce qu'il en reste à gauche, avec son original qui se trouve à droite ici. Et je situe sur la carte Ur, qui est près de Babylone, Babel, dans la plaine de Shinéar, entre le Tigre et l'Euphrate, c'est ça ? Oui, pour les férus de géographie. Donc la tour de Babel, c'était probablement une forme de ziggourat. Alors, pour résumer ce premier point sur l'ordre divin, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Dieu donne, dans ce premier point, après le déluge, Dieu ordonne à l'humanité, à plusieurs reprises, de se multiplier, de procréer et de se répandre sur toute la terre. Cette petite saga sur la tour de Babel, ou plutôt du tour de le ziggourat de Babel, implique trois acteurs. Donc Dieu, évidemment, une population, et j'insiste sur le fait que cette population, je la vois comme un seul acteur, tellement elle est uniforme, tellement elle est, on va dire, unie dans le même projet. Et un autre inconnu qui reste à découvrir. Maintenant, on va passer au deuxième point sur la rébellion. Relisons les versets 1 à 4. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Il dit encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Petite parenthèse, le verset 1 nous rappelle sans surprise que la communication est essentielle pour mener à bien un projet d'envergure. La construction de la tour de Babel, ambitieuse et exigeante, nécessitait une coopération efficace de toute la population. C'est d'ailleurs la confusion des langues qui a mis fin à ce chantier. Une bonne communication reste donc essentielle dans le cadre de l'Église aussi, concernant les projets ou la vie communautaire. C'est un point un peu annexe, mais voilà, il nous enseigne cela, en tous les cas, ce passage. On peut remercier le CNEF et les unions d'Église qui jouent un rôle décisif en matière de communication et de coopération entre les croyants, que ce soit pour des projets locaux ou nationaux, comme l'évangélisation, et récemment, l'accompagnement des athlètes pendant les JO, par exemple. Bon, je ferme la parenthèse. Mais vous voyez, ce texte nous parle de l'importance de la communication aussi. Je passe à la page suivante, où je donne un petit aperçu de la géographie. Donc, on s'y retrouve un petit peu. Hein, on voit... On se repère par rapport à Israël, on voit que l'Est, c'est maintenant c'était l'ancienne Perse qui est devenue l'Irak et l'Iran aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, on a le golfe Persique, la Méditerranée de l'autre côté. Donc on voit bien, on a une petite idée de la géographie. Les constructeurs de la tour qui sont venus de l'Est n'ont pas trouvé suffisamment de pierres dans la plaine de Shinéar et de Mésopotamie, au point qu'ils ont dû cuire des briques et les cimenter avec du bitume. Alors, essayez de vous mettre à leur place. Imaginez l'ampleur du travail, l'odeur. Je ne sais pas si vous avez senti l'asphalte ou l'odeur, la chaleur des fours à briques et du bitume. Imaginez tout ça, qui s'ajoute à celle de l'air ambiant. Un vrai bonheur, hein, n'est-ce pas? Les morts accidentelles étaient probablement nombreuses, car la vie avait peu de valeur. La dignité humaine, l'épanouissement, la foi, tout ça, ça passait au second plan, derrière ce projet délirant. La diversité n'avait probablement pas sa place, et cela nous renvoie à la captivité en Égypte, où les Hébreux fabriquaient eux-mêmes des briques. Selon les données de l'époque, la construction a duré plusieurs générations au point que certains n'ont jamais connu d'autres projets de vie. Et malheur, probablement, malheur à ceux qui ont tenté de s'opposer. Ils l'ont probablement payé de leur vie. Pourquoi? Pour construire une ville et une tour qui touchent le ciel. Un gratte-ciel antique. Et d'après le verset 4, en construisant la ville et la tour, et en y demeurant, il montrait clairement qu'il ne voulait pas obéir à l'ordre divin de se multiplier, de se disperser. Il préférait prendre leur destin en main, construire une société sans Dieu pour ne pas se retrouver disséminé, de se fondre, probablement ils avaient peur de se fondre dans l'anonymat historique, le contraire de la célébrité. En se stabilisant en un lieu où ils construisaient un édifice impressionnant, ils espéraient se faire un nom, rencontrer la gloire, le prestige, être loués, adulés. En voulant atteindre le ciel, symbole de la demeure de Dieu, ils se prenaient pour Dieu. Si ce n'était pas si triste, on en rirait, n'est-ce pas? Je voudrais vous lire un extrait d'un texte de M. François Castel, qui dépeint assez bien ce type de projet démesuré. Alors, voilà ce qu'il écrit. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Et ça concerne la tour de Babel. Ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. C'est une bonne illustration. Le projet et la royauté, c'est d'unifier le peuple, si possible, tous les peuples, autour de leur capitale, de leur temple, de leur personne royale. À ce prix, les princes pensent qu'ils se feront un nom, qu'ils donneront un nom à leur peuple. Les peuples qui les écoutent, qui les croient ou qui leur sont asservis font bien vite l'expérience que le grand nom dont il s'agit n'est que celui du prince. Le projet commun n'est que l'habile ou brutale propagande du roi. Les superbes constructions sont marquées par la pierre ou la brique, mais ne disent plus le peuple enrégimenté, réduit à l'esclavage, surchargé d'impôts, si souvent misérable. La gloire est au prince et à sa cité, et la peine est aux hommes. On admire les œuvres, on oublie de pleurer le sang versé, la liberté perdue. Les individus réduits à ne plus exister en tant que parole, projet, personne indépendante. Il n'y a plus d'autonomie possible. Tout est soumis au dessein royal. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce texte me paraît assez bien illustrer ce genre d'entreprise qui n'est pas propre à la tour de Babel, mais qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, pour conclure ce deuxième point, ce texte souligne l'importance de la communication. Je pense qu'il faut le répéter, je le répéterai encore. Ne la négligeons pas dans l'Église. Ce texte ne critique ni l'urbanisation ni le totalitarisme, car, en tous les cas, le texte ne le dit pas, mais rien n'était posé à cette population. La véritable critique porte sur l'orgueil, l'attitude d'un peuple qui, librement, choisit d'agir ensemble contre Dieu et son plan. Donc ce texte dénonce l'orgueil collectif, mais aussi la rébellion contre Dieu et aussi la démesure du projet. Voyons maintenant la réponse de Dieu, la sanction, ce que j'appelais la sanction. Reprenons le verset 5. « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. » Le texte ne s'étend pas davantage sur la question de la renommée qui est traitée au verset 5. Il répond simplement par la dérision. « Les hommes construisent une tour qui touche le ciel. Allons, allons, ils disent, deux fois. » Mais Dieu dit aussi « allons ». Et qu'est-ce qu'il est obligé de faire pour voir la tour ? Descendre. En fait, l'idée de la renommée est traitée ici par ce texte, par l'ironie. Dieu se moque. Vous êtes d'accord ? Il se moque vraiment des hommes, de l'œuvre des hommes. Le Seigneur s'oppose ici au refus de la dissémination, car il identifie un mal profond qui se situe au verset 6. Et il dit « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. » Et c'est ça qui est important. « Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. » L'épisode de Babel dénonce un problème global. Uni, le peuple n'a, dans un certain sens, bien sûr, il a des limites, mais on pourrait dire qu'il n'a plus aucune limite à faire le mal. Le peuple n'a plus aucune limite à faire le mal. Alors, bien sûr, Dieu met des limites. Quand je dis « n'a plus aucune limite », c'est dans un certain sens, dans une certaine... Mais on voit bien, dans le monde actuel, que les peuples n'ont plus de limite à faire le mal. De différents types de mal, il n'y a pas que les guerres. Rappelez-vous, au chapitre 6, le mal avait atteint une ampleur tel que Dieu ne pouvait plus le tolérer, au point de prendre la décision salutaire, parce que de détruire l'humanité, sauf Noé et sa famille. Salutaire, parce que sinon le mal n'aurait fait qu'empirer. On retrouve cette idée en Genèse 3. La sanction à la désobéissance d'Adam et d'Ève consistait à leur empêcher l'accès à l'arbre de vie pour qu'ils ne vivent pas éternellement et ne fasse le mal sans aucune limite. Ce qui préoccupe Dieu dans ces premiers chapitres de la Genèse, le mal est là, mais il ne veut pas qu'il dépasse un certain seuil. Et là, il intervient. La sanction, ici, nous est donnée au verset 7 à 9. Allons, allons. Les hommes disent allons, et Dieu dit allons. Ils se moquent. Descendons et labrouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. L'union fait la force, ne dit-on pas ? Et dans cette perspective, Dieu décide d'empêcher les humains à poursuivre leur projet insensé en brouillant leur langue. Il les rend ainsi incapables de finir leur construction. Dieu dissémine les hommes pour que leur entreprise se heurte à une limite pratique. Nous voyons dans cette petite saga qui a le dernier mot? C'est l'Éternel, notre Dieu. On peut ajouter aussi que par contraste avec l'uniformité de la population, que ce texte souligne vraiment une population unie comme un seul homme, eh bien, Dieu oppose la diversité. Parce que Dieu aime la diversité, la différenciation. Bien que ce texte ne soit pas une critique du totalitarisme, il met en lumière la mobilisation des forces, et ça, je pense que c'est un problème général, la mobilisation des forces d'idéologie opposées à Dieu qu'on peut trouver dans différents courants politiques, totalitaires ou non, ou religieux d'ailleurs. Alors voilà une petite réflexion. Là, ce n'est pas biblique, c'est ma réflexion personnelle. J'ai essayé d'identifier le plus récemment possible les tours de Babel que Dieu a détruites. Alors, il est clair que j'y vais à grands traits, un peu de caricature, un peu simplifié. Mais voilà ce que j'ai... Parce qu'on pourrait... L'histoire biblique nous montre que Dieu a mis un terme à un certain nombre d'empires. On se rappelle l'empire assyrien, l'empire babylonien, l'empire perse, et puis l'empire grec et l'empire romain. Ça, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Mais il a mis aussi un terme à pas mal d'autres tours de Babel qui se sont situés dans l'histoire. Alors, à gauche figurent évidemment le communisme, le stalinisme, le maoïsme, les régimes de la Corée du Nord et de Cuba. Et j'ai ajouté le nazisme parce que c'est national-socialisme, je dis que c'est à gauche. Bon, j'ai fait un grand trait, hein. C'est à grand trait. Mais tout ça, ça représente des centaines de millions de morts. Des centaines de millions de morts. Était-ce des tours de Babel? À droite, j'en ai un pour tout le monde, la mondialisation qui vise à optimiser les profits à l'échelle mondiale dans une frénésie de consommation, enrichissant une minorité au détriment d'une majorité laborieuse. Tout cela au mépris des limites en ressources énergétiques de la planète. Est-ce une tour de Babel? À vous de répondre. Plus proche de nous, en Occident, on entend parler du progressisme woke, je ne sais pas si vous connaissez le wokisme, bien répandu aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Et moi, j'ai une nièce en Australie, elle a décidé de faire cours à ses enfants, elle ne veut pas les envoyer à l'école, tellement c'est imprégné dans l'enseignement. Progressisme woke, où une élite minoritaire tente de ce qu'elle appelle déconstruire une population avec son histoire et sa culture, en imposant des mœurs incompatibles avec l'Évangile. Comment? Par la pression médiatique et l'endoctrinement des enfants dès leur plus jeune âge. Et cela, ce n'est pas récent. C'est comme au plus beau jour de l'Union soviétique. C'était comme ça en Union soviétique. Et tout cela, malheureusement, grâce à la complicité d'une classe politique un peu laxiste, par souci d'être élu aux prochaines élections. Est-ce tour de Babel? Ces entreprises collectives, alors je n'ai pas donné le nombre de millions de morts de la mondialisation, parce que c'est impossible à calculer, mais il suffit de voir tous les endroits où on a puiser les ressources humaines où des peuples ont été bafoués à cause de notre consommation. Je passe maintenant sur le plan religieux, parce que les religions non plus, elles n'ont pas été toutes bonnes. Alors déjà, bon, sur le plan religieux, donc depuis 14 siècles, l'islamisme tente d'imposer par la force ou l'intimidation sa doctrine et ses lois, contraires au message d'amour, de paix et de tolérance du christianisme. Est-ce une tour de Babel? 80 millions de morts estimés par l'islamisme. Estimés. Hein. Et on sait, nous qui suivons l'Église persécutée, nous savons que ça continue. Tous les jours. Tous les jours. Ensuite, la chrétienté n'a pas échappé. Hein. Par exemple, Charlemagne, celui qui a eu la mauvaise idée d'inventer l'école, il voulait carrément rétablir le royaume de Dieu sur terre en imposant par la force la foi chrétienne. C'est un peu comme l'islamisme. Hein. Ce qui est aussi incompatible avec le message de l'Évangile. Sans oublier chaque fois où la religion est instrumentalisée par les politiques pour gagner le pouvoir. On pourrait aussi ajouter toutes les sectes qui existent. Est-ce des tours de Babel? Notons au passage que Dieu a déjà mis un terme à certaines de ses entreprises. Et je pense que ce n'est pas fini. car Dieu a toujours le dernier mot. Alors c'est vrai qu'autour de nous, nous voyons des tas de tours de Babel. Hein, si on y réfléchit, quand on y réfléchit, c'était un peu l'idée de ma réflexion. Là, ce que je viens de dire, hein, n'engage que moi. Hein, c'est pas la Bible, c'est pas la Bible, ça n'engage que moi. Mais quand on y réfléchit, on est entouré de tours de Babel. Les sociétés telles que nous les construisons aujourd'hui, qui est basée sur une idéologie opposée à Dieu, c'est ça la tour de Babel. Hein? Soyons lucides en tant que chrétiens. Soyons lucides que le monde qui nous entoure, ce n'est pas neutre. Et on le verra à la fin. Toute construction basée sur une idéologie opposée à Dieu est une tour de Babel. Mais, soyons rassurés. C'est aussi un encouragement, cette histoire de la tour de Babel. Soyons rassurés. Dieu a toujours le dernier mot. Alors pour conclure ce troisième point, la racine du mal de Genèse 11 réside dans la conjonction, quelque part, d'une force collective, un seul peuple, une seule langue, et la folie des projets humains symbolisés par la tour qui touche le ciel. Comme en Genèse 3, en imposant des limites aux humains et au mal qu'ils pourraient faire, Dieu a une fois de plus le dernier mot. Le groupe, la masse, tend à niveler les individualités au profit d'un seul mouvement, d'un seul projet, contrairement à la volonté de Dieu qui, comme le montre notre texte, comme la création d'ailleurs, favorise la diversité. Uniformité pour les hommes contre diversité pour Dieu. Et finalement, quand on y réfléchit, la décision divine de brouiller les langues n'est pas une sanction. Elle est salutaire pour l'humanité. Sans quoi l'ampleur du mal n'aurait fait que croître sur terre. Et on voit dans l'histoire récente du XXe siècle en particulier, je pense que heureusement Dieu a mis un terme à certaines idéologies, sans quoi le mal serait terrible. Alors pour conclure ce message, bon, qu'apprenons-nous sur les hommes ? Alors d'abord, on comprend qu'ils ont besoin de communiquer pour s'entendre, pour réaliser des grands projets. Bon, ça c'est une évidence, mais ça vaut le coup de le rappeler. On comprend qu'aussi, unis, ils sont capables de collaborer et réaliser de grandes choses ensemble. Et l'histoire de notre pays, l'architecture de notre pays, certains châteaux, certains... Alors on peut se demander aussi si ce n'était pas des tours de Babel, mais on va pas... Hein, certaines cathédrales, sont, on voit que les hommes sont capables de faire de grandes choses ensemble. Malheureusement, leurs projets sont trop souvent motivés par l'orgueil et le désir de renommée qui reflète une volonté de s'élever au-dessus de leurs conditions humaines et de se rebeller contre Dieu, de le défier. On voit aussi que, bon, j'ai un petit peu brodé autour de la tour de Babel, j'ai extrapolé, je me suis imaginé qu'est-ce que ça fait que de construire une tour comme ça. Je me suis dit qu'il y a dû avoir beaucoup de morts, non pas volontaires, mais de morts par accident, comme il y en a dans beaucoup de constructions. Il y a eu certainement des répressions pour parce qu'il y en a qui ont dû se rebeller. Hein, voilà, tout ça, on peut s'imaginer, même si ce n'est pas dit dans le texte. On voit que les actions humaines peuvent entraîner des conséquences durables et souvent négative. Alors, quelles leçons tirer pour nous, les hommes, et les croyants surtout ? Eh bien, soyons humbles, restons humbles. Et pour nous, les hommes, c'est un défi. Pour nous, c'est pas facile, mais grâce à Dieu, nous y parvenons, petit à petit, pas à pas. Restons humbles. Et soumettons-nous à la volonté divine. Je dirais, même si on n'en a pas envie, pourquoi ? Parce que de toute façon, Dieu a le dernier mot. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu ? Alors, ce texte ne nous apprend pas beaucoup de choses sur Dieu, parce qu'on sait des choses qu'on sait déjà. Mais on sait qu'il est souverain, comme on l'a chanté tout à l'heure, puisqu'il a toujours le dernier mot. Mais on voit aussi, et ça doit nous encourager, que Dieu intervient directement pour mettre fin au projet des hommes motivés par l'orgueil et la rébellion, je dirais des projets insensés des hommes. On peut avoir, bien sûr, nous, on manque de patience, on a hâte. On a hâte de voir le royaume de Dieu sur terre, en réalité, nous les croyants. Mais on a hâte de voir des injustices disparaître. On a hâte de voir, enfin, je ne donne pas de nom, des idioties politiques. On a hâte de voir l'arrêt de ces choses. Mais il nous faut patienter et se rappeler que Dieu met un terme aux projets qui sont insensés. On voit aussi quelque chose qui doit nous interpeller, nous qui avons peut-être tendance à vouloir que tout le monde nous ressemble, ou à vouloir l'uniformité, y compris dans l'Église d'ailleurs. Dieu favorise la diversité, et la diversité culturelle et la diversité linguistique. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, un petit décalage, dans le monde entier, des cultes ont eu lieu, avec des chants totalement différents, des façons de chanter complètement différentes, des gammes de musique complètement différentes des nôtres. Mais tout cela a servi à la glorifier le Seigneur. Donc voilà, ayons cette perspective de la diversité dans le royaume de Dieu. Alors maintenant, je mets un terme au suspense insupportable, savoir quel était le troisième individu, alors qui c'était, à votre avis ? Quel était le troisième personnage là-derrière ? En fait, le troisième personnage, on voit à droite, c'est l'orgueil, évidemment. Mais l'orgueil, ce n'est pas un personnage. C'est celui qui se cache derrière. Et celui qui se cache derrière est à gauche, c'est Satan, le diable. Sachons que dans toutes ces œuvres, toutes ces tours de Babel qui sont construites, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les autorités qui sont derrière. Amen. Seigneur, sois loué pour ta souveraineté. Merci d'avoir toujours le dernier mot, sinon ça serait terrible pour l'humanité. Sois loué pour la beauté et la diversité de ta création. Merci pour chaque fois où tu as mis un terme à la folie de certains projets humains. Pardonne-nous chaque fois où nous te mettons de côté et chaque fois que nous essayons de construire à notre échelle une tour de Babel. Pardonne notre manque d'humilité avec notre désir de vouloir trop souvent nous mettre en avant. Pardonne-nous de croire que nous pouvons nous passer de toi. Nous te prions pour que tu mettes un terme à toutes les tours de Babel modernes qui se développent dans le monde avec leur lot de souffrances. Nous te prions pour que tu nous aides à communiquer au sein de nos églises. Nous te prions pour que tu nous gardes unis dans la grande mission que tu nous as confiée, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Reviens, Seigneur, reviens vite. Amen. Alors avant de terminer, j'ai oublié de remercier M. Mathieu Richel, qui n'est plus à la faculté de Vaud, il est monté en grade, qui, dans ses documents, dans ses cours, m'a beaucoup aidé à comprendre plus en profondeur ce texte.